Tout un monde,
Marie-Hélène Freissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, aujourd'hui Shakespeare et ses étranges étrangers plongés dans l'univers foisonnant de Shakespeare, Will, comme dit Stephen Greenblatt. Et ce, à l'occasion de cette fin de semaine qui lui est dédiée sur France Culture, nous sommes en compagnie donc de deux grands shakespeariens, Stephen Greenblatt, qui est avec nous en ligne depuis Boston, professeur à Harvard et auteur notamment de Will le Magnifique, et Lada Niaesh, qui est avec nous en direct à Paris, dans le studio, qui est agrégée d'anglais, qui a beaucoup écrit sur Shakespeare et son regard sur l'autre, notamment sur les figures du cannibalisme dans le théâtre anglais.
Voleur ! Où as-tu caché ma fille ? Pané que tu es ! Tu l'as ensorcelée ! J'en appelle à tous les hommes de bon sens ! Si elle n'avait pas été enchaînée par je ne sais quelle magie, comment une fille si tendre, si belle, si heureuse, si indifférente au mariage qu'elle refusait tous les jeunes gens de la ville, comment serait-elle tombée dans les bras d'un nègre ? Tu es fait pour épouvanter les filles, non pour les attirer. Et demain, Desdemone sera la risée de Venise. Mais je prends le monde entier pour juge. Tu as pratiqué autour d'elle des sortilèges monstrueux. Tu lui as fait boire de ces poudres qui brûlent le sang. Votre grâce, j'affirme que c'est à l'aide de quelque mixture ensorcelée que cet homme a pu agir sur ma fille.
Othello, le mort basané que la jalousie va perdre, Shylock, l'usurier juif, Cléopâtre, dont les charmes orientaux maléfiques et corrupteurs vont détourner Antoine, Caliban, le sauvage de la tempête. Il y a beaucoup d'étranges étrangers dans les pièces de Shakespeare. Ces personnages sont presque toujours synonymes d'un trouble, d'un ébranlement de l'ordre du monde. Ils sont perçus d'une manière négative en général et ils recèlent, tout en ayant une certaine grandeur, et c'est là la complexité de Shakespeare, une part de noirceur d'âme, pas seulement de peau, une noirceur foncière, essentielle, ontologique, qui a pu faire dire à certains, de manière d'ailleurs anachronique, que Shakespeare était raciste. À la jointure entre le XVIe et le XVIIe siècle, Shakespeare vit et écrit au cœur d'une époque de profond bouleversement dont il reflète le trouble, la complexité, une époque où les perspectives changent et où l'Angleterre, cette petite nation, est en train de développer sa puissance maritime. Elle part à l'assaut des mondes, Londres devient cosmopolite et certainement ça a eu une très forte influence sur Shakespeare. J'ai le plaisir de saluer à l'autre bout du fil un grand shakespearien, Stephen Greenblatt, qui est avec nous, professeur à Harvard, auteur de Will le Magnifique, qui reparaît. Bonjour Stephen Greenblatt.
Bonjour Marie-Hélène.
Merci d'être avec nous, car si vous êtes un grand connaisseur de Shakespeare, et votre Will le Magnifique est en ce moment, je crois, réédité, mais vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Ces merveilleuses possessions, qui analysait les contenus des récits de voyage, justement au temps de Shakespeare, au XVIe siècle. Donc ce regard sur l'autre, c'est un thème qui vous hante depuis de très nombreuses années.
Oui, c'est vrai. But I should speak in English.
Je vais peut-être m'exprimer en anglais.
This is true.
Traduit par Xavier Combes.
It is the case that,
oui,
that,
ce que vous dites est vrai. C'est vrai que tout au long de sa vie, Shakespeare était fasciné par l'autre, l'altérité, les personnes qui vivaient en marge de sa propre société et en marge du monde qu'il habitait.
Alors, je salue aussi la présence parmi nous de la Danièche. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez aussi le même type de regard que Steven Greenblatt. Et rares, je dois dire, sont les chercheurs qui ont travaillé sur cet aspect de l'œuvre de Shakespeare, c'est-à-dire ce regard sur l'autre.
Oh, ils ne sont pas si rares. C'est vrai que le regard sur l'autre, c'est un peu le sujet de n'importe quel type d'écriture. On écrit pour s'adresser à l'autre, on écrit pour s'interroger sur l'autre, pour s'interroger sur son identité à soi, l'identité de l'autre, et ce caractère un peu interdépendant qu'on a avec tout interlocuteur. C'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement au cœur des réflexions des contemporains de Shakespeare. C'est une période où le monde explose tout à coup, où l'horizon s'élargit, et où tout à coup, on se retrouve avec ces deux tendances contradictoires, surtout pour les Anglais, de l'insularité qui les caractérise, et aussi de cette idée d'ouverture soudaine sur le monde, sur ces possibilités qui grandissent chaque jour, d'ouverture vers de nouveaux mondes et de nouvelles découvertes.
Alors Steven Greenblatt, et je me tourne aussi vers vous, la Danièche, quand on emploie ce terme, et on le voit circuler pas mal en ce moment, du fil rouge en quelque sorte raciste ou xénophobe de Shakespeare, comment réagissez-vous à ça?
Well, look, Marie-Hélène, I just returned from Western Uganda.
Je reviens d'Ouganda. J'étais dans l'ouest de l'Ouganda et j'observais des chimpanzés. Lorsqu'un chimpanzé d'un certain groupe sent la présence d'un chimpanzé d'un autre groupe, eh bien, ces deux chimpanzés deviennent tout excités et en même temps violents. Les poils se hérissent, parfois ils vomissent, ils souffrent de diarrhée, et ensuite ils attaquent. Cela fait partie de l'héritage, si je puis dire, de notre ancêtre commun qui remonte à des millions d'années. Par conséquent, il n'est pas surprenant de voir que lorsque nous, cousins des chimpanzés, nous sentons la présence d'un autre, d'une personne, d'un autre groupe, eh bien, qu'on ressente de la xénophobie. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que nous ne soyons pas systématiquement comme cela. Shakespeare, quant à lui, constitue l'emblème parfait de la capacité qu'a l'homme de concilier cette impulsion de haine et avec l'impulsion de comprendre et d'admirer. Et peut-être même, dirais-je, d'aimer.
Eh bien, Shylock, serons-nous vous obligés?
Signor Antonio, maintes fois déjà, et souvent sur le Rialto, vous m'avez insulté à propos de mon argent et des profits que j'en tire. Et je l'ai toujours supporté, en haussant les épaules. Car la souffrance est la marque de toute notre tribu. Vous m'avez même appelé mécréant, chien, coupe-jarret. Et régulièrement, vous n'hésitiez pas à cracher sur mon manteau de juif. Et tout cela pour l'usage que je fais de ce qui m'appartient. Mais vous venez aujourd'hui solliciter mon aide. Vous venez à moi et vous me dites, Shylock, nous voudrions emprunter. Vous dites cela à vous, qui vidiez votre salive sur ma barbe, qui me chassiez à coups de pied comme si vous repoussiez un limier étranger du seuil de votre maison, vous sollicitez de l'argent. Que devrais-je vous dire ?
Thank you. Voilà un petit extrait du Marchand de Venise, bien sûr. Et d'ailleurs, je rappelle que le Marchand de Venise ne tire pas son titre du personnage de Shylock. C'est Antonio, le Marchand de Venise. On a tendance à confondre parce que Shylock est tellement un personnage frappant qu'il occupe en quelque sorte toute la scène. Alors, Stephen Greenblatt, la Dania Esch, parlons donc de ces personnages. Et ils sont quand même nombreux. On en a énoncé quelques-uns qui sont dans cette ambiguïté. On entend bien là dans cet extrait qui vient d'être diffusé que Shylock a une revendication qui a des aspects de légitimité, même si après il va se comporter d'une manière cruelle. Alors comment analysez-vous ça, la Dania Esch, pour commencer?
Alors, vous avez mentionné effectivement un certain nombre de personnages d'étrangers sur la scène shakespearienne. Ce qu'on peut remarquer un peu à propos de tous ces personnages, c'est qu'ils viennent systématiquement munis d'un double. Vous avez mentionné cette ambiguïté sur le personnage de Shylock, dont on pense que c'est le marchand de Venise. En fait, c'est le double du marchand de Venise. Et ce phénomène, vous allez le retrouver avec un peu tous les étrangers de Shakespeare. Vous le trouvez avec Othello et Iago. Vous le trouvez avec Caliban et ses nombreux doubles. Ariel, Prospero, Ferdinand, qui sont en quelque sorte ses doubles. Et à chaque fois, un phénomène qui me frappe, moi, c'est cette tentative d'essayer d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre par la présence de ces relais qui permettent de définir cet autre, de l'ancrer dans notre monde à nous, au moyen de ces doubles qui servent un peu d'explication. Par exemple, quand vous prenez le cas d'Othello et de Iago, on entre dans la pièce, on a écouté l'extrait d'Othello tout à l'heure, et on a l'impression que le personnage stéréotypé comme la noirceur extrême, comme le danger extrême, c'est Othello. Et petit à petit, en fait, le personnage qui permet de définir cette noirceur d'âme, qui permet de poser les frontières de cette noirceur d'âme, et à partir de là, de définir l'originalité de Othello, va être le Vénitien type, le personnage de Iago.
C'est lui qui dit d'ailleurs « I am not what I am », »,« Je ne suis pas ce que je suis ».
Absolument, vous avez bien lu votre Marchand de Venise, tout à fait.
Non, mon Othello.
Pardonnez-moi, votre Othello, excusez-moi. Et ce phénomène, effectivement, de dépendance entre l'autre et le même, et ce phénomène de relais, on le trouve systématiquement chez Shakespeare. Regardez ce lien indissoluble entre, par exemple, Prospero et Caliban. « Cette chose des ténèbres, je la réclame comme mienne », dit Prospero à la fin de la pièce, pour reconnaître
que Caliban est un autre lui-même.
Caliban est à lui et Caliban est un autre lui. Du bout des lèvres, avec beaucoup de réticence, il finit par reconnaître que Caliban est homme comme lui et qu'il se ressemble, en dépit de cette apparence, différence extrême du personnage de Caliban au début de la pièce.
Alors je me tourne vers Stephen Greenblatt, parce que Caliban, c'est le personnage du sauvage. C'est le personnage que vous analysez dans un autre ouvrage, donc c'est Merveilleuse Possession, c'est l'indigène du Nouveau Monde, plus ou moins.
What strikes me about Shakespeare's depiction of Caliban.
Ce qui me frappe dans la peinture que Shakespeare fait de Caliban,
donc dans La Tempête,
and for that matter, Shakespeare's depiction of,
et ce qui me frappe également dans la façon dont il décrit Shylock ou Othello,
is that he's not,
c'est le fait que Shakespeare, en tant que dramaturge, n'est pas du tout de l'époque des Lumières.
His Caliban.
Son Caliban est un traître, un fourbe, il est saoul, il est violent, c'est un sauvage, vous l'avez dit. Il y a dans ce personnage une obsession pour le droit, la loi. Là, il y a la revanche.
Pour Shylock.
S'agissant de Shylock, oui.
His Othello is a black man, is
Othello, gullible. Lui, c'est un quelqu'un qui est tout à fait naïf, qui est imbécile,
mais glorieux.
Il a des sentiments irrationnels et il est facile à manipuler s'agissant de meurtre, évidemment.
And yet, that's the question.
Malgré
and yet,
tout cela, chacun de ces personnages, bien que dépeint par un dramaturge qui ne reflète en rien les lumières, chacun de ces personnages donc prend vie dans le cadre des préjugés, enfin des idées préconçues que l'on a sur ce type de personnage à l'époque shakespearienne.
Et
comme vous l'avez fait remarquer, il y a tout à fait un double pour chacun de ces personnages. Ainsi, les figures dont on pense qu'ils sont le contraire de ces personnages, eh bien, en font partie en même temps. Et s'il est un indice, s'il y a une clé de compréhension, et c'est bien une clé parmi d'autres, eh bien, c'est que Shakespeare lui-même a sans doute dû ressentir en lui l'existence de son propre double. Shakespeare a vu donc l'existence de l'usurier. Et Shakespeare lui-même pratiquait cet exercice du prêt d'argent. Alors, en touchant les intérêts. Autre aspect de la vie de Shakespeare, il y a des histoires secrètes, des espèces de poids secrets en lui.
Stephen Greenblatt, quel était le contexte dans lequel se trouvait Shakespeare et qu'est-ce qu'il a lu ? En fait, c'est un homme qui écrit dans une Londres devenue cosmopolite, tout récemment. Et c'est aussi quelqu'un, et vous l'avez démontré dans votre biographie Will le Magnifique, qui est, comme on dit en anglais, un bookworm. Il lit comme un fou. Donc il lit les récits de voyage. On a l'impression que... Alors, quelle est la part de la lecture, de la vie quotidienne à Londres, dans cette inspiration qui consiste à créer beaucoup de personnages venus d'ailleurs ?
Je dirais que Shakespeare a rencontré, par exemple, des Huguenots français, au milieu desquels il vivait, c'était donc des exilés. On sait très peu de choses sur la vie de Shakespeare, mais on sait qu'il a vécu auprès de ces exilés français. Il est vraisemblable que Shakespeare ait eu une amoureuse d'une famille juive. Lui-même était issu d'une famille qui cachait son catholicisme. Par conséquent, il y a là un nœud de secrets et de clés de compréhension de l'altérité dans l'œuvre de Shakespeare.
Alors, est-ce que Londres, à l'époque de Shakespeare, était déjà une ville très cosmopolite, puisque en vous lisant Stephen Greenblatt, on apprend qu'il y avait très très peu de Juifs à Londres, puisque c'est une communauté qui avait été chassée d'Angleterre depuis longtemps. Donc, quel était le contexte ? Et là, j'introduis aussi la Dania Hesh dans notre conversation. Donc, ça ressemble à quoi la vie quotidienne à Londres à cette époque-là ? Alors, peut-être la Dan, tout de suite.
La vie quotidienne à Londres.
Il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans la rue, d'orientaux, de commerçants.
Alors, oui et non. Il y a, vous parlez des Juifs. Donc, officiellement, il n'y a pas de Juifs sur le sol anglais. On soupçonne qu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle les crypto-juifs, les maranes, les portugais, les espagnols, qui cachent leur religion juive. Il y a l'exemple célèbre du docteur Lopez, le médecin d'Elisabeth Ier, qui a d'ailleurs très très mal fini, qui a été accusé de complot contre la reine et qui a été raccourci de manière fatale,
comme beaucoup d'autres,
en public. Donc vous avez cet exemple, vous avez des visites d'ambassadeurs par moment, la visite de l'ambassadeur du Maroc qui est resté célèbre avec le fameux portrait qu'on voit reproduit dans un peu toutes les éditions d'Othello comme une des sources possibles de la définition du personnage d'Othello comme mort. Vous avez des exemples un peu plus anecdotiques, comme par exemple ces sauvages, entre guillemets, ces Inuits ou ces Amérindiens rapportés de leur voyage par Frobisher, par Rowley, par d'autres. Les Inuits qui malheureusement s'acclimataient très mal en Angleterre.
Et qui sont morts très vite.
Vous avez le célèbre exemple de Pocahontas.
Donc il y a un vrai contexte.
Il y a un contexte.
Il voit des étrangers.
Il ne voit pas les étrangers couramment, les occasions d'interagir agir avec des communautés autres que, par exemple, les Huguenots que Stephen a mentionnés sont relativement rares, mais à titre de curiosité, à titre occasionnel, on peut voir ces personnages. On peut aussi voir, autre événement marquant, par exemple, les cargaisons d'esclaves de ces navires de négriers rattrapés par les Anglais, occasionnellement qui transitent par Londres avant de repartir, malheureusement.
Donc il y a un paysage très multiculturel à Londres.
Il y a un paysage qui permet les rencontres, mais pas forcément les échanges et l'assimilation.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Freissé.
Shakespeare et ses étranges étrangers, vous écoutez tout un monde, nous sommes plongés en pleine période élisabéthaine avec cette belle pavane pour consort de viol de Dowland et nous avons la chance d'avoir au bout du fil Stephen Greenblatt, grand shakespearien qui publie Will le Magnifique et puis ici en studio Ladan Niayesh. Alors je redonne la parole à Stephen Greenblatt parce qu'on va parler maintenant peut-être du lecteur puisque vous avez démontré que Shakespeare était un grand lecteur de Montaigne et tout particulièrement du chapitre Les Cannibales.
Yes, Shakespeare probably was friends with oui. John Florio.
Il est vraisemblable que Shakespeare était ami avec John Florio,
Italian Protestant family,
qui était issu d'une famille italienne protestante,
was the principal mediator for both,
et qui était le médiateur pour la littérature italienne et française, pour les lecteurs anglais. Et l'on sait que Shakespeare et d'autres auteurs et lecteurs anglais qui connaissaient bien le français ont néanmoins lu Montaigne dans la traduction de Florio. Et à partir de cette traduction, il est très clair que Shakespeare en a puisé des mots, des passages, des expressions entières dans l'œuvre de Montaigne. En même temps, je pense que Shakespeare se disait que Montaigne était trop confiant. S'agissant des vérités universelles dont Shakespeare pensait que Montaigne adoptait. Autrement dit, Shakespeare, lui, avait un sentiment plus intense, voire un petit peu plus repoussant face aux étrangers que Montaigne. Il les acceptait moins volontiers que Montaigne, sans doute.
Donc on pourrait dire...
Mais moi, je suis, vous le savez, un amoureux de Shakespeare, donc j'ai du mal à dire cela, mais Montaigne fait preuve de plus de grandeur d'âme à l'endroit des étrangers que Shakespeare.
Oui, parce que l'étranger est tout de même, dans toutes les pièces, quelqu'un qui met en péril, ou dans presque toutes les pièces, quelqu'un qui met en péril donc l'ordre établi. Alors justement, ça pose aussi une autre question. Comment Shakespeare se distingue-t-il par rapport aux autres auteurs dramatiques qui sont ses contemporains? Là, je me tourne vers Ladan Niayesh, puisque vous avez travaillé sur Marlowe, Ben Jonson, que aussi, bien sûr, Stephen Greenblatt connaît bien, comme Marlowe a aussi fait un Juif de Malte, hein, ou c'est Ben Jonson, je ne sais plus.
Non, c'est Marlowe.
Voilà, Juif de Malte, donc encore une figure qui est assez proche de celle de Shylock. Est-ce que la perception est différente chez ces autres auteurs contemporains?
Oh, la filiation est très nette avec Marlowe. Marlowe est un auteur, c'est peut-être le premier grand dramaturge du théâtre public anglais.
C'est le même type de regard sur l'étranger?
Je dirais que après, vous avez la personnalité des auteurs, vous avez la période dans laquelle ils apparaissent. La carrière de Marlowe se termine au moment où Shakespeare commence sa carrière. Marlowe meurt dans un duel au moment où Shakespeare commence à monter, à être l'étoile montante du théâtre anglais. Marlowe a été l'inspiration pour toute une génération de dramaturges à laquelle Shakespeare appartient. Shakespeare cite Marlowe abondamment et jusqu'à la fin de sa carrière, dans un peu toutes ses ses pièces. Toutes les pièces de Marlowe sont
marquées. Il a les mêmes valeurs que Marlowe ?
Il n'a pas les mêmes valeurs que Marlowe. Les valeurs de Marlowe, je dirais, relèvent peut-être plus de la personnalité flamboyante de Marlowe. Marlowe est un auteur de jeunesse. Marlowe meurt jeune. C'est un personnage... en lui-même, ancien espion qui meurt dans un duel, qui traîne une réputation sulfureuse datée. Shakespeare, comparé à lui, est un dramaturge beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, l'homme d'affaires qui fait partie donc des actionnaires de la compagnie des Kingsmen. On a parlé de ses activités d'usurier. Il a aussi ses activités de propriétaire terrien. La personnalité de l'auteur est différente et sa période est différente. Shakespeare a aussi une carrière extrêmement longue. Comparé à Marlowe, et on n'a pas cette énergie foudroyante qu'on a chez Marlowe. Chez Shakespeare, on l'a différemment. Les idées de Shakespeare ont le temps de mûrir tout au long de sa carrière, et des préjugés qu'on voit par exemple dans Titus Andronicus contre les Noirs au début de sa carrière sont très différents de la manière dont il représente l'enjeu de l'altérité à la fin de sa carrière dans sa pièce Testament entre guillemets, qui est La Tempête.
Alors je voudrais qu'on dise encore un mot d'un autre personnage très très rapidement. Stephen Greenblatt, c'est Cléopâtre, parce que on n'a pas parlé de personnages féminins jusqu'à maintenant, et Cléopâtre, c'est celle en fait qui corrompt l'âme d'Antoine. C'est l'orientale vénéneuse.
Yes, it's true that Shakespeare uses Cléopâtre.
C'est tout à fait vrai. Shakespeare utilise Cléopâtre pour explorer une version orientale de fascination sexuelle et de trahison aussi. Mais je dirais que le secret sous-jacent, c'est que pour Shakespeare, la femme contient en elle toujours un élément d'altérité, voire de danger.
Alors, il y a d'autres allusions, indépendamment des personnages qui sont des personnages venus d'ailleurs. Et la Dania Esch, comme Stephen Greenblatt, vous en parlez dans vos ouvrages respectifs. Ce sont toute une série d'allusions qui sont semées dans les pièces. Et je pense, par exemple, au roi Lear. Et en vous lisant, j'ai retrouvé cette phrase du roi Lear à propos des Scythes, qui sont eux-mêmes des barbares, des gens ingérables, et qui mettent en danger à nouveau l'ordre du monde. Donc, cette atmosphère d'inquiétude, enfin ce regard troublé vers l'étranger, on ne le voit pas chez Shakespeare uniquement dans des personnages. C'est quelque chose qui imprègne toute son œuvre, Stephen Greenblatt.
The interesting to me, it's a little bit what I said about Cleopatra a second ago. The interesting thing.
Ce qui est intéressant, pour revenir à ce que je disais sur Cléopâtre, c'est que quel que soit la rétrospection jusqu'au site, d'ailleurs, ou s'agissant même d'animaux qui sont souvent convoqués dans les pièces de Shakespeare, eh bien, dans tous ces cas de figure, on est face au miroir qui projette sa propre image quand on est spectateur ou lecteur.
En tout cas, ce qui est évident, et on avait commencé à le mettre en comparaison, mais on n'aura pas le temps de le faire avec les auteurs qui lui sont contemporains, c'est l'extraordinaire complexité de Shakespeare, c'est foisonnant, et rien n'est jamais définitivement résolu. D'ailleurs, quand on replonge dans Shakespeare, on est à chaque fois émerveillé, et on comprend, Stephen Greenblatt, que vous lui ayez consacré tant de temps. Alors, je vais redire le titre de ce livre magnifique qui s'appelle justement Will le Magnifique, comment Shakespeare est devenu Shakespeare, dans la collection Chants Flammarion. Et puis également à lire votre ouvrage très intéressant, La Dania Esch. Il est déjà ancien, mais on le trouve. Hein, il s'appelle Aux frontières de l'humain, figure du cannibalisme dans le théâtre anglais de la Renaissance. C'est paru chez Champion en 2009. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci bien.
«
Voilà, lire et relire Shakespeare et l'écouter tout ce week-end qui lui est consacré sur France Culture. Et c'était le cas de Tout un Monde, le magazine des cultures au pluriel, à la prise de son Jean-Michel Bernot, à la réalisation d'Oria Zénine. La traduction était assurée par Xavier Combes et donc nous avions le plaisir d'avoir en ligne depuis Boston Steven Greenblatt et d'avoir en studio la Dame Niesch. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Et à 19h30 sur France Culture, vous êtes attendu par Vincent Charpentier. Bonjour Vincent, bonsoir.